Dodson!
Ne dites pas mon nom.
Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Tout le monde s'en fout. Joli chapeau. Vous voulez ressembler à un agent secret? Alors?
Un nouvel épisode des Mystères de l'OST.
Bonjour à tous, bonjour Sissi.
Salut Birf.
Nous sommes ravis de vous retrouver enfin après tant d'absence. Absence due, c'est cliché, mais à la pandémie. Mais surtout de sa conséquence sur nos vies, combinée à des obligations professionnelles, bref, voilà. Nous sommes de retour et pour notre comeback, en guillemets, la thématique de cet épisode est donc les comebacks.
Alors, les comebacks au sein du cinéma, des séries, de façon globale, quoi. Le retour d'un acteur presque oublié, retour d'une série, d'une franchise, d'un réalisateur ou d'un compositeur, pour le meilleur ou pour le pire.
Sans plus attendre, je commence cet épisode avec la musique Blood Bag sur la bande originale de Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road signe le retour de Max Rokatansky près de 30 ans après sa dernière apparition cinématographique, cette fois-ci sous les traits de Tom Hardy, succédant donc à Mel Gibson. Ancien policier de la route, Max erre désormais seul au volant de son bolide dans un monde dévasté où les clans de cannibales, les sectes et les gangs de motards s'affrontent dans un désert sans fin pour l'essence et l'eau. Il va croiser la route de Immortan Joe, un ancien militaire devenu leader tyrannique. L'une de ses plus fidèles partisanes, Furiosa, jouée par Charlize Theron, le trahit et s'enfuit avec un bien d'une importance capitale pour le chef de guerre, ses épouses, un groupe de femmes lui servant d'esclaves et de pondeuses. Max va se retrouver au sein de la traque de Furiosa par Immortan Joe, bien malgré lui. Notons, vous le savez peut-être déjà, que l'acteur qui joue Immortan Joe, Hugh Key Byrne, est le même acteur qui jouait le bad guy dans Mad Max 1, chef du gang qui causa la mort de la femme de Max, qui par vengeance et haine deviendra furieux, Mad en anglais, Mad Max. On a déjà parlé du compositeur de la bande-son, il s'agit de Antonius Holkenborg, plus connu sous le pseudonyme de Junkie XL. On lui doit les OST des films, disons, très action tels que Deadpool, Batman v Superman, Mortal Engines, hein, qui s'en souvient, et Kong vs Godzilla qui sort cette année, peut-être. Mais aussi les OST de Scoob et de Sonic le film. Il reviendra travailler pour George Miller, réalisateur de la saga Mad Max, en 2021, ou pas, pour son prochain film.
Et pour mon premier film comeback, Crossing Mars, sur la bande originale de The Martian, ou plutôt Seul sur Mars.
Thank you.
Alors oui, ce film est déjà passé dans ce podcast, alors pour en savoir plus sur le film, si vous ne le connaissez toujours pas, je vous invite à écouter l'épisode 4 des Mystères de l'OST. Si ce film fait son retour aujourd'hui, ce n'est ni pour un comeback de Matt Damon qui a le rôle principal, ni pour Harry Gregson-Williams que vous connaissez maintenant puisque nous en avons parlé pour The Martian et Shrek, mais pour le réalisateur, Monsieur Ridley Scott. Réalisateur et producteur britanno-américain, il est révélé à la fin des années 70 et dans les années 80 avec Alien le 8e passager, Blade Runner et Legend. Après ça, ses films connaissent moins de succès jusqu'en 92 où il reprend du poil de la bête grâce à Thelma et Louise et 1492, Christophe Colomb. On en parlait dans l'épisode 2 si jamais. Il fait un peu le yo-yo en fait, puisqu'il lui faut attendre le début des années 2000 pour relancer son succès avec Gladiator, Hannibal et Kingdom of Heaven. Il enchaîne ensuite avec des films plus modestes, voire même décevants, et notamment avec sa collaboration à trois reprises avec Russell Crowe, American Gangster, Mensonge d'État et Robin des Bois. Si dans les années 2010 il revient en grande pompe avec Prometheus, c'est en 2015 qu'il fait son comeback aux yeux du grand public avec Seul sur Mars. Le film a rencontré un énorme succès, rapportant plus de 630 millions de recettes mondiales. C'est également le film le plus rentable dans le monde, nommé aux Oscars en 2016, où il a notamment remporté les prix de meilleur réalisateur. La dernière fois c'était en 1992 pour Thelma et Louise, donc c'est un sacré comeback de la part de Ridley Scott. Harry Gregson-Williams, qui a donc composé la bande originale et que vous avez pu entendre dans Narnia, Kingdom of Heaven, Chicken Run ou encore dans le film de 2020 Mulan, a raconté qu'il s'est mis tardivement sur le projet. Habitué à commencer la composition des OST au moment de la première coupe, il est arrivé sur Seul sur Mars alors qu'ils étaient déjà à 4 semaines de montage. Musicalement, Gregson-Williams s'est inspiré des personnalités des personnages pour l'OST, et notamment s'adapter aux montagnes russes du film qui nous présente un héros optimiste sur une planète invivable et hostile. Pour renforcer la vision de Ridley Scott, il s'est également inspiré d'un univers froid, stérile et solitaire pour donner au film l'ambiance qu'on lui connaît.
Bon, là c'est un peu spécial, parce qu'en fait on va parler d'un film qui n'est pas encore sorti, mais son OST, elle, oui. Il s'agit du film Kaamelott, premier volet. Initialement prévu en juillet 2020, puis en novembre 2020, le film se retrouve sans date de sortie, on sait bien pourquoi. Alors je sais que certaines personnes peuvent ne pas vouloir se spoiler la bande originale du film et préfèrent la découvrir durant la vision du long métrage. Dans quel cas, je vous conseille d'avancer l'épisode d'environ 2 minutes 40. Pour les autres, on va s'écouter Marche Aquitaine de Alexandre Astier. Thank you. Bon. Là, normalement, vous faites partie d'une des deux catégories. Ceux qui aiment Kaamelott, avec plus ou moins de fanatisme, et ceux que cela exergue. Le film reprendra là où s'est arrêtée la série il y a plus de 12 ans. Le royaume de Kaamelott n'est plus gouverné par Arthur, qui a laissé sa place à son ancien ami, désormais rival, Lancelot. Ce dernier brûle la table ronde et prend en chasse les anciens compagnons de Arthur à travers toute la Bretagne. Le roi déchu se réfugie à Rome en attendant son éventuel retour. Le film est réalisé par Alexandre Astier, écrit par Alexandre Astier, monté par Alexandre Astier et composé par Alexandre fucking Astier. L'OST du film, disponible à l'achat ou en streaming, est sorti le 27 novembre 2020 et comporte 34 titres. Écrit par Alexandre Astier, joué par l'Orchestre National de Lyon, plus de 115 musiciens et chœurs y ont participé. Astier lui-même joue parfois de certains instruments dans certains titres, ainsi que le seul titre de l'album à être fait au piano. Perso, je trouve que cette bande-son stupéfiante et l'utilisation de pas mal de cuivre fait parfois, immanquablement, penser à un certain John Williams. Avec cette French touch, si je puis dire, et ces changements de sonorité si caractéristiques, on reste sur une œuvre unique et pas trop singée sur les grands de Hollywood. Grands d'Hollywood dont Alexandre Astier n'a pas à rougir selon moi. Attention tout de même, les titres des pistes peuvent également divulgâcher l'intrigue du film, dont la date de sortie est, je le rappelle, toujours inconnue.
Tu parlais de John Williams, et ben ça tombe bien, puisque tout de suite, la musique du générique de fin du meilleur film de tous les temps, selon moi, Jurassic Park. Alors là, je vous entends déjà derrière vos écouteurs. Quoi ? Jurassic Park, John Williams, Steven Spielberg, y a pas de comeback, c'est quoi cet épisode de chi ? Bref, déjà, c'est mon podcast et mon film préféré, donc je parle de ce que je veux. Ensuite, il y a bien un comeback dans l'histoire, même si ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais il y en a un. Et on va commencer dans l'ordre. Jurassic Park, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, que ce soit par les films ou par les livres. John Williams, bon, il a déjà fait son apparition dans notre podcast du fait de son énorme liste de compositions pour le cinéma. Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type, 1941, Les Aventuriers de l'Arche Perdue et les Indiana Jones, E.T., Hook, Il faut sauver le soldat Ryan, bref, il y a une bonne liste. Cette liste, d'ailleurs, ne vous fait pas penser à quelqu'un d'autre ? Et oui, ce sont toutes des OST pour les films de Steven Spielberg. T'as vu la transition de ouf, là ?
Magnifique.
Et oui, Steven Spielberg a fait en quelque sorte un comeback avec Jurassic Park. Si dans nos souvenirs, les années 80 ont consolidé Spielberg en tant que roi de l'industrie du cinéma, en réalisant ou produisant les plus grands succès de cette décennie, on ne pense pas que certains de ses films n'ont pas été terribles et pas appréciés par le grand public. Surtout à l'arrivée du film Hook, où le film a été d'une grande déception pour le public et les critiques, à un point que les gens prédisaient la fin du règne du champion du box-office.
C'est vraiment un gros tas de merde.
Mais 3 ans plus tard, en 1993, meilleure année, il réalisa un film qui effaça instantanément tous les doutes, Jurassic Park. Avec un énorme travail réalisé sur les effets spéciaux et la conception des dinosaures, il a montré au public qu'il n'en avait pas fini avec le cinéma. À l'époque, le film est devenu la sortie mondiale la plus rentable de l'histoire et aujourd'hui encore, le film fait partie de la pop culture, avec notamment la scène de l'ondulation de l'eau dans le verre pour indiquer l'approche d'un dinosaure. Et s'il a réussi à ravir les grands et intriguer les enfants, la musique y est pour beaucoup. En effet, en composant l'OST, John Williams a déclaré qu'il voulait, je cite, « écrire des morceaux qui transmettraient un sentiment de respect et de fascination, permettant de crécher les gens, un fort ressenti de bonheur et d'excitation à la vue des dinosaures vivants. » Et la fameuse scène « Bienvenue à Jurassic Park », aujourd'hui culte, nous prouve que John Williams a complètement réussi son coup.
Il l'a fait. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré.
On repart sur le retour d'un acteur au premier plan après une lente glissade vers l'oubli. Je parle du comeback de Michael Keaton dans Birdman et son OST percutante. Doge and Distance donc, venu tout droit du film Birdman. Thank you. Birdman, film de Alejandro González Iñárritu, sorti en 2014, retrace la vie de Regan Thompson, un acteur à la gloire passée, connu pour avoir interprété le super-héros Birdman dans une trilogie de films. Le rôle l'habite encore, Thompson s'imagine pouvoir voler ou déplacer des objets par la pensée, tout en entendant les sarcasmes du personnage de Birdman. Il a cependant un projet pour relancer sa carrière, une nouvelle adaptation sur Broadway de la nouvelle Parlez-moi d'amour de Raymond Carver. Franchement, avec un scénario pareil, qui mieux que Keaton, lui-même tombé en désuétude après avoir incarné le super-héros Batman. Les étoiles semblaient bien alignées. Le score du film est majoritairement constitué de performances de batterie jazz jouées par le batteur Antonio Sanchez, et de plusieurs pièces classiques, notamment du Ravel ou du Tchaïkovski. Mais on y reviendra. Il s'agit de la seule composition pour le cinéma du batteur mexicain. L'OST a gagné un Grammy Award pour la meilleure composition pour un film, mais s'est vu refuser l'accès à la participation aux Oscars dans la catégorie meilleure musique de film, car l'Académie a refusé, estimant que le score original du film reprenait beaucoup trop de musiques existantes, principalement les musiques classiques citées juste avant, pour être considéré comme un original score. Sanchez et Iñárritu auront bon se battre et faire appel, la décision de l'Académie restera la même. Le film gagnera, cela dit, l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleure photographie. Et on peut pas tout avoir non plus.
Avec une annonce d'une probable saison 6 dans les années à venir, je profite de cette fenêtre pour parler de la série Prison Break, qui en 2017 a fait un comeback 8 ans après ce qu'on pensait être la fin de la série. Alors tout de suite, le thème principal de la série Prison Break.
Non, pas le rap de Faflarage, désolé.
Prison Break, petit rappel de la saison 1 sortie en 2005 et créée par Paul Schering, mettait en scène les aventures, ou plutôt mésaventures, de deux frères dans le monde carcéral. On y découvrait Michael Scofield, joué par Wentworth Miller, incarcéré pour tenter de libérer son frère Lincoln Burrows, joué par Dominic Purcell, condamné à mort. Pour cela, il s'était fait tatouer les plans de la prison sur tout le corps. Pour raccourcir, pendant les 4 saisons initiales de la série, on suivait le parcours des deux frangins et de quelques prisonniers tentant de s'échapper de différentes prisons et des cavales qui s'en suivirent. La fin de la saison 4 laissait vraiment penser à une fin certaine avec la mort de Michael, jusqu'à ce qu'en 2017, on apprend que 7 ans après, le personnage est bien en vie, mais emprisonné au Moyen-Orient. Cette fois-ci, c'est le frangin et la même équipe de prisonniers rescapés des saisons précédentes qui vont tenter de libérer Schofield. Avec le retour de la série, on retrouve également le même compositeur, Ramin Djawadi, qui entre-temps a composé les OST de Game of Thrones et Westworld. Ayant composé la bande originale des saisons précédentes, il s'est dit excité de retourner sur le projet. En réfléchissant à son retour et à l'écriture de nouvelles musiques, il a trouvé intéressant de revenir en arrière pour retrouver les mélodies écrites à l'époque, tout en les faisant évoluer, tout comme les personnages de la série. Il a même cité lors d'une interview à ce sujet « À l'époque, je ne pensais même pas que j'aurais cette opportunité. Ça va être passionnant de mélanger l'ancien au nouveau. »
Dans notre épisode spécial série, type d'épisode qui ne devrait plus avoir lieu à l'avenir, car vous le voyez, nous ne faisons plus la distinction, on avait passé le thème principal de Breaking Bad de David Porter. Et bien dans l'épisode du jour, on passe le thème de fin de Better Call Saul, toujours par David Porter. We'll be right back. Better Call Saul retrace la vie de Jimmy McGill, avocat sans envergure, ascendant loser, avant qu'il ne devienne l'homme de loi véreux Saul Goodman, et qu'il ne rencontre les futurs trafiquants de méta-amphétamine Walter White et Jesse Pinkman dans la série Breaking Bad. Vince Gilligan est toujours à la réalisation de ce spin-off porté par l'excellent Bob Odenkirk dans le rôle de Saul. On a déjà parlé de Dave Porter qui a bien entendu composé la musique de Breaking Bad, de El Camino, le film de Breaking Bad quoi, ou encore actif sur la série Blacklist. Il a été l'assistant de Philip Glass, autre compositeur à qui on doit les OST récompensés de The Truman Show, The Hours ou encore Léviathan. Oh, et pour finir sur Dave Porter, il a aussi réalisé la musique de la série Metastasis, remake colombien de Breaking Bad. J'ai un peu regardé le truc et ça semble être du 1-1, hein, c'est vraiment du copier-coller de Breaking Bad. Le personnage principal s'appelant même Walter Blanco. Voilà, voilà.
Walter Feiss.
Walter Feiss pour la version suisse allemande, hein. Yoï.
On va continuer sur notre lancée des séries, puisque cette fois-ci je vais vous parler d'un comeback concernant des acteurs et leurs personnages avec King Cobra sur l'OST de Cobra Kai. Cobra Kai est une série américaine où l'action se déroule 34 ans après le film Karate Kid de 1984, avec les mêmes acteurs. Pour les rares qui ne connaîtraient pas Karate Kid, ça nous parlait de Daniel, un nouvel arrivant isolé et persécuté par ses camarades de classe, apprenant pour se défendre le karaté auprès d'un vieux japonais, Monsieur Miyagi. Le film met en scène une rivalité entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, lui aussi apprenant le karaté, le tout bien sûr pour épater une fille. Ce qui est super intéressant, c'est que les films Karate Kid sont centrés sur le personnage de Daniel, joué par Ralph Macchio, alors que la série est orientée sur le personnage de Johnny, William Zabka. Si Johnny avait l'air d'avoir une situation plutôt aisée dans les premiers films, contrairement à Daniel, la roue a tourné dans la série, puisque Johnny est complètement à la dérive, tandis que Daniel a réussi niveau famille et professionnellement. En gros, pour pas trop en dire, un événement va raviver la rivalité d'antan. Les deux hommes vont faire face aux démons du passé et aux frustrations du présent de la seule manière qu'ils connaissent, le karaté. Pour la bande originale de la série, on découvre deux nouveaux compositeurs, Leo Bierenberg et Zach Robinson. Leo Bierenberg est un compositeur américain. Sa carrière a commencé en 2011 avec sa participation aux OST de Pitch Perfect, Movie 43, R.I.P.D., La Reine des Neiges et Ant-Man, mais c'est au niveau de la télévision qu'il compose réellement les bandes originales, notamment celle de Cobra Kai, la série Kung Fu Panda, et a composé les musiques additionnelles de la série animée Jurassic World. Un tout jeune compositeur donc, à l'instar de son collègue Zach Robinson qui a presque la même discographie. Les deux compositeurs ont utilisé un orchestre de 70 musiciens ainsi que des chœurs de guitare électrique et de rétro synthétiseurs pour créer une partition combinée aux musiques originales de Bill Conti, compositeur de l'OST de Karate Kid. Ils ont avoué avoir créé des partitions en fonction des différents personnages. Pour Johnny, qui se prend un peu pour un dur à cuire, ils ont composé avec des riffs de guitare qui, je cite, « font fondre le visage et des tambours d'arènes meurtriers ». Daniel, lui, a eu le droit à des sons plus orchestraux et d'influence japonaise, rappelant aux spectateurs les musiques du film. Pour les étudiants du Cobra Kai, un mélange de hard rock héritage de Johnny, de synthwave inspiré des années 80 et d'EDM moderne. Lors d'un entretien pour un magazine, ils ont annoncé avoir voulu incorporer du matériel réel de la composition de Bill Conti. Ils ont notamment pour cela utilisé une ligne chord-harp récurrente du premier film qui était assez flexible pour l'intégrer à la nouvelle partition. Ils ont ainsi pu ravir les fans d'autrefois et les spectateurs d'aujourd'hui.
On repart sur le comeback d'un acteur star des années 80 ayant sombré dans la drogue et l'alcool. Bon, ça peut faire pas mal de monde quand même. Avant de revenir sur le devant de la scène dans Kiss Kiss Bang Bang et par finir par devenir une icône pour une génération sous les traits de Iron Man, Robert Downey Jr. On s'écoute le titre principal du film de Shane Black sorti en 2005. Harry Lockhart, RDJ donc, est un petit voleur assez maladroit. Après le cambriolage raté d'un magasin de jouets, il se retrouve à participer à un casting de film pour éviter de se faire attraper par la police. Il réussit à avoir le rôle, et pour améliorer son jeu d'acteur, son producteur lui demande de faire équipe avec Gay Perry, un détective privé homosexuel joué par Val Kilmer. De fil en aiguille, le voilà mêlé à une histoire de meurtre des plus complexes. Robert Downey Jr. est engagé après de très bonnes lectures ainsi que par son faible salaire, qui entrerait facilement dans le budget serré du film. Son comeback était déjà entamé avec Gothica, qu'il venait de finir de tourner, mais Kiss Kiss Bang Bang lui donna le coup de pouce pour relancer sa carrière. On doit la musique à John Ottman, qui fait son entrée dans notre podcast. C'est un collaborateur régulier des réalisateurs Jones, Collet, Serra et surtout Bryan Singer, de tous les longs métrages duquel il a assuré le montage et la musique, à l'exception du premier X-Men. Il remporte l'Oscar du meilleur montage pour Bohemian Rhapsody. Il composa l'OST de Usual Suspect en 1995, Arak Attack en 2002, c'est un de mes plaisirs coupables, Gothica dont je viens de parler, Superman Returns, les deux cadres fantastiques de Tim Story, et il retrouvera Shane Black pour l'OST de l'excellent The Nice Guys en 2016.
Et pour ma dernière intervention dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais continuer sur ma lancée des séries avec tout de suite House sur l'OST de Dexter. Thank you. Dexter, Birf avait déjà parlé de cette série lors de notre épisode hors-série série, mais Dexter a toute sa place dans cet épisode puisqu'une saison 9 doit voir le jour en 2021. En effet, après une fin plus que décevante de la saison 8 et du sort de notre tueur préféré, interprété par Michael C. Hall, la saison 9 sera une suite directe, malgré les 7 ans écoulés depuis.
Tant mieux, c'était vraiment une chie.
C'est le showrunner des 4 premières saisons, Clyde Phillips, qui reprend les rênes pour cette nouvelle saison. Très déçu de la tournure de la saison 8, il se dit ravi de pouvoir revisiter le personnage, corriger les erreurs et donner une vraie fin à la série. L'intrigue se déroulera 10 ans après que Dexter Morgan ait, entre guillemets, disparu dans l'ouragan Laura, se créant une nouvelle identité en Oregon. On ne sait pas grand chose de plus hormis le fait qu'on sera bien loin des palmiers et des cadavres de Miami. On ne sait pas non plus grand chose du compositeur de cette saison, puisque Daniel Licht, qui a composé l'OST des saisons précédentes, nous a quittés en 2017. Connu pour ses bandes originales de films d'horreur comme Amityville ou Hellraiser, c'est avec l'OST de la série Dexter qu'il se fait vraiment remarquer. Il a d'ailleurs dit à l'époque qu'il considérait son travail sur la série comme l'un de ses projets les plus visibles. Comme l'avait précisé Birf dans le hors-série, il utilisa un mélange d'électro et de musique latine pour rendre hommage à un personnage froid dans un milieu pourtant chaud. Aucun nom n'est encore sorti concernant l'OST de la saison 9, on espère juste qu'elle sera au niveau du regretté Daniel Licht tout en s'adaptant au nouvel univers du personnage de Michael C. Hall.
Et pour terminer, on va faire une doublette. Comeback d'une des sagas horrifiques les plus connues et surtout retour à la composition du maître de l'horreur. Je parle bien sûr de Halloween de 2018 et de Monsieur John Carpenter. On s'écoute The Shape Returns reprenant le thème principal de Halloween. We'll be right back. une équipe de podcasteurs britanniques se rend aux États-Unis pour réaliser un reportage sur le massacre perpétré par le psychopathe Michael Myers lors de la nuit d'Halloween en 1978. Le reportage prend soudain une tournure macabre lorsque Myers parvient à s'évader lors d'un transfert vers un nouvel asile psychiatrique. Sa seule préoccupation est de se venger de Laurie Strode, la survivante du massacre, jouée par Jamie Lee Curtis, qui reprend donc son rôle 40 ans après. Après le traumatisme qu'elle a vécu il y a 40 ans, Laurie se prépare au retour de Michael Myers dans le but d'affronter une ultime fois le désormais célèbre tueur d'Halloween. Bon, John Carpenter, cinéaste et compositeur né en 1948, est devenu une des références du cinéma d'horreur et de l'ASF, avec des films comme New York 97, The Thing, Christine, The Fog, They Live, et j'en passe énormément. Mention pour Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, que j'affectionne beaucoup pour son côté second degré, et surtout pour Kurt Russell. Niveau composition, on lui doit toutes les compositions des films qu'il a réalisés, entre 1974 et 2001, avec un retour derrière la caméra en 2011 pour The Wall, que je n'ai pas vu, film pour lequel il ne fit pas le score original. Il fallut attendre 2016-2017 pour que Big John révèle qu'il participera au développement d'un nouveau film de la franchise Halloween, en tant que producteur délégué. Cependant, dans une interview accordée à ComingSoon.net, le producteur principal du film, Jason Blum, a précisé que le rôle de Carpenter va bien au-delà. À chaque fois que nous prenons une décision importante sur le plan créatif, il est impliqué et nous ne faisons rien sans sa bénédiction, disait-il. Tout comme sur ses albums studio Lost Theme et Lost Theme 2, John Carpenter collabore ici avec son fils Cody et son filleul Daniel Davis. John Carpenter conseille également David Gordon Green sur le montage musical du film, lui indiquant qu'il ne sert à rien de préparer les moments de tension avec de la musique, les bruits d'ambiance suffisent généralement. Il sort Lost Theme 3 en février 2021 et quel putain de plaisir. Notons que vous entendez du John Carpenter en ce moment. Depuis le début du podcast, la musique de fin des épisodes provient de Escape from New York.
Et voici ce qui clôt notre épisode, marquant notre mini comeback. Désolé de l'absence longuette, on va essayer de reprendre du service un peu plus souvent, même si les épisodes seront peut-être un peu plus courts, on sera au moins de retour. Merci pour votre fidélité et à la prochaine!
C'était un véritable plaisir de vous retrouver et à bientôt pour un nouvel épisode des Mystères de l'OST.
Comment vous vous êtes sauvé?
Je l'ai tué avec un petit revolver que je planque près de mes couilles.